France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter. Bon réveil, nous sommes le 14 février. Ravis de vous retrouver en ce petit matin. Il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous. Le programme du 5-6 en ce jour de Saint-Valentin dans les chroniques littorales, rencontre avec un ch'ti amoureux de la mer. Aimer le pays où l'on est plutôt que celui de ses ancêtres, on vous explique le droit du sol dans la chronique d'où ça sort. Aimer par-delà la mort après les attentats du 13 novembre, c'est le thème du roman graphique de notre invité déjà debout à 5h45. Et si on cuisinait aujourd'hui pour notre amoureuse ou notre amoureux, les petits bateaux nous expliquent pourquoi les cordons bleus ne sont pas bleu. Avant 6h, on a aussi rendez-vous avec un philosophe qu'on aime beaucoup, nous les Français, c'est René Descartes dans Café Philo. Et puis on danse au son d'un groupe qui ne pense qu'à ça, Compromat, qui est dans la playlist de France Inter. Voilà le programme de ce petit matin pour vous accompagner sur France Inter.
France Inter.
Et on commence avec un premier journal. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Quelle paix en Ukraine et à quelles conditions?
Les interrogations, les inquiétudes de nombreux Ukrainiens après les propos de Donald Trump qui veut convenir de négociations immédiates avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Des Ukrainiens qui craignent que leur pays ne soit l'objet de tractations qui leur échappent à l'heure où tout s'accélère, comme ces réfugiés que vous avez rencontrés, Faustine Calmel, en région parisienne.
Dans ce local de la Cité universitaire internationale au sud de Paris, ces soirs de distribution, Oksana fouille les vêtements, la recherche d'habits pour ses trois enfants, la tête un peu ailleurs, là-bas en Ukraine, où son mari combat les Russes depuis 3 ans.
Mon mari, il pense qu'il faut arrêter maintenant.
Un cessez-le-feu rapidement, qu'importe les conditions, mais elle, Oksana, n'est pas d'accord.
Si on donne notre territoire, pourquoi sont décédés les soldats, les gens qui sont déjà morts, qui ont lutté pour l'Ukraine, pour notre territoire, c'est ça le prix.
Le prix bien trop cher à payer, poursuit-elle. Pourtant, l'idée d'une trêve séduit Anastasia, étudiante, réfugiée, qui aide à la distribution ici.
Un côté, c'est le sentiment de l'espérance, parce que peut-être c'est la fin de la guerre, ce qu'on attend depuis presque déjà 3 ans. Mais il y a une autre partie des gens qui veut avoir une vraie victoire.
Mais qui peut croire que Vladimir Poutine en resterait là? Certainement pas Galina.
Il ne faut pas croire à Poutine parce qu'elle peut dire oui, oui, je m'arrête, je peux arrêter. Mais en général, après, elle peut reprendre d'autres territoires de l'Ukraine, ça c'est sûr.
Toutes ces réfugiées en appellent aux pays européens pour aider et défendre l'Ukraine, affaiblie par 3 ans de guerre et de destruction.
Les Européens, justement, Emmanuel Macron a mis en garde contre une paix qui serait une capitulation en Ukraine. Message lancé au président américain Donald Trump dans une interview au quotidien britannique, le Financial Times, publié en ce jour de sommet sur la sécurité à Munich en présence de hauts responsables américains. Au Proche-Orient, l'ONU alerte, la catastrophe humanitaire se poursuit à Gaza malgré la trêve. Israël attend que le Hamas libère 3 otages vivants samedi pour garantir la poursuite du cessez-le-feu.
En France, après l'attaque à la grenade dans un bar de sa ville, le maire de Grenoble espère des réponses de la part du ministre de l'Intérieur.
Bruno Retailleau est en visite aujourd'hui en Isère, visite prévue depuis plusieurs jours. Nous aurons des discussions sur l'ampleur du narcotrafic, a fait savoir l'écologiste Éric Piolle, en proie aux critiques. L'enquête, elle, se poursuit, mais difficilement pour retrouver l'auteur de cette explosion, Véronique Cueillo.
L'enquête pour retrouver l'auteur de l'attaque s'annonce difficile, comme toutes celles qui portent sur des règlements de compte sur fond de trafic de drogue et de cigarettes. Car ce sont bien ces pistes-là qui semblent privilégiées par la police. Non loin du bar associatif qui a été détruit par une grenade, se tient un point de deal. Et puis, dans le bar, selon des témoins rencontrés sur place, on pouvait acheter des cigarettes au marché noir. Et il y avait la queue devant le magasin, nous a même lâché une femme qui promenait son chien. D'ailleurs, le mois dernier, lors d'une opération anti-fraude, pas moins de 26 kilos de cigarettes avait été saisi dans le quartier. Le responsable du bar, qui a été blessé dans l'explosion, avait, quant à lui, été condamné en novembre dernier par le tribunal judiciaire de Grenoble pour blanchiment, selon une information de nos confrères du Dauphiné Libéré que nous avons pu vérifier. Selon le parquet de Lyon, l'auteur de l'attaque s'est servi d'une grenade à main de type M75, utilisée pendant la guerre des Balkans, et dont les billes d'acier qu'elle contient provoquent de graves blessures.
Une Véronique Pueyo d'ici Isère. L'ancien numéro 2 de la Fédération française joueuse de tennis a été condamnée hier à 10 ans de prison ferme pour viol sur une ancienne joueuse de près de 50 ans, sa cadette. Jean-Pierre Dartevelle a été reconnu coupable. La cour criminelle du Doubs a rendu sa décision tard hier soir. Il va faire appel, annonce ses avocats.
5h05 sur France Inter, ce qui s'appelle la solidarité à la source va être généralisé.
Ce versement automatique des minima sociaux, un peu comme les impôts, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La ministre du Travail vient donc confirmer ceci en Vendée, confirmer cette généralisation du dispositif à l'ensemble du territoire, Maxime Debs.
Jusqu'ici, 5 départements étaient pilotes, hein, les Alpes-Maritimes, l'Aube, l'Hérault, les Pyrénées-Atlantiques et donc la Vendée où se rend Catherine Vautrin ce matin, histoire de marquer ce changement majeur pour 6 millions de Français qui n'auront plus, d'ici 2 semaines, à remplir eux-mêmes les documents nécessaires au versement des allocations. Pour le RSA, la prime d'activité, la CAF s'en occupera pour eux. Une avancée claire pour le ministère qui rappelle que chaque année, un tiers des allocataires éligibles au RSA n'en font pas la demande, confrontés à la lourdeur des démarches, leur côté rébarbatif, qui pouvait jusqu'ici représenter jusqu'à 8 déclarations par an. Plus simple désormais, sur le site de la CAF, les allocataires n'auront donc qu'à confirmer ou demander si besoin que leurs informations soient modifiées. Pour le ministère, cette nouvelle façon de faire doit aussi permettre un meilleur contrôle et d'éviter les trop perçus qui obligent parfois les ménages à rembourser des sommes après coup au risque de déstabiliser le budget des familles.
Le versement automatique des minima sociaux qui va simplifier la vie de 6 millions de Français. Des traces de PFAS détectées cette fois dans l'eau du robinet des Parisiens. Elle peut être bue en toute sécurité, mais même avec la présence de ces polluants éternels, selon la régie municipale Haute-Paris, qui vient de révéler ses analyses pour l'année dernière. Mais Haute-Paris souhaite porter plainte pour faire payer à l'industrie chimique le coût de la décontamination. Garde tes roses, je veux tes droits. En Lozère, un collectif féministe dénonce la Saint-Valentin et a mené la nuit dernière une opération de collage pour donc dénoncer les inégalités persistantes et la condition des femmes.
Enfin, un nom.
Il n'est que proposé pour présider le comité d'organisation des Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes. Après le récent retrait de Martin Fourcade, les tumultes, les différentes tractations, Edgar Gros-Piron a été désigné hier par les acteurs du dossier. Lui qui a été sacré champion de ski de boss au JO 92 d'Albertville.
Hey, mais Karim, Tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt. Le Bladi. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux.
Le retour de Tonton du Bled, l'intemporel titre de Rimka du 113, sorti en 1999. Eh bien, il est enfin sur toutes les plateformes de streaming depuis aujourd'hui. Titre introuvable depuis des années en cause, notamment des problèmes de droits d'auteur liés au fameux sample, la boucle, la mélodie là que vous entendez, emprunté à un morceau du chanteur algérien Ahmed Wabi. Tonton du Bled, donc ça y est, vous pouvez désormais l'écouter.
Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à ti. C'était le journal de Sarah Ders, il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Une France coupée en deux, Elodie Calac.
Un temps plus agréable à l'est, mais encore des nuages à l'ouest. Une perturbation s'étend de la Bretagne aux Pyrénées ce matin avec un peu de pluie. Cet après-midi, il ne restera que quelques gouttes, ça s'éclaircira par l'est. De la Normandie au Languedoc-Roussillon, un ciel très voilé ce matin avec des nuages bas en prime. Ce sera plus lumineux cet après-midi avec le retour progressif du soleil. Plus à l'est, c'est le soleil qui va s'imposer plus ou moins rapidement. Il doit composer avec les grisailles matinales sur le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'Orléanais, le sud du bassin parisien. En revanche, des Ardennes à l'Alsace, ça va rester encombré toute la journée. Les températures sont en baisse avec des gelées sur un bon quart nord-est ce matin, prudence sur les routes, mais il fait 5 à 10 degrés de l'océan à la Méditerranée. Cet après-midi, comptez 3 petits degrés à Nancy, 4 à Cambrai et Belfort, 6 à Paris, Rennes, Lyon, mais 11 degrés à Martigues, 16 à Montauban, à Bastia et 18 à Biarritz.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur Inter. On peut avoir appris à naviguer en eau douce et être un des plus grands promoteurs de la mer. Portrait à suivre dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout est sculpteur à Metz. Il a travaillé sur les attentats du 13 novembre 2015, il y a donc 10 ans. La chronique D'où ça sort s'intéresse au droit du sol, sujet politique s'il en est. Et politique toujours, Charline Vanhoenacker explose les premiers pas de Donald Trump. Elle en fait même un quiz à ne pas manquer à 5h25. Dans quelques minutes, ce sera donc les chroniques littorales. Mais d'abord, musique. Les rockers irlandais de Fontaine D.C. chantent Bug, extrait du film Bird d'Andrea Arnold. Bug de Fontaine D.C. tiré de leur dernier album Romance et à retrouver en concert cet été dans les festivals à Beauregard le 6 juillet ou encore à Musilac le 9. 5h13 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer et ce matin, vous recevez un promoteur du nautisme.
En la personne de Tanguy Blondel, Marion. Tanguy Blondel, bonjour.
Bonjour.
Tanguy Blondel, alors vous êtes un des rares qui s'occupe de plaisance, du nautisme, mais vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas skipper, vous êtes attaché de presse du nautisme. Donc voilà, on vous donne la charge de faire découvrir le nautisme. C'est venu de tout petit, le nautisme.
Tout à fait. J'ai appris la voile sur des plans d'eau intérieurs dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ah oui, parce que vous êtes un ch'ti aussi.
Ah, je suis un calaisien.
Voilà.
Et il y a évidemment la mer, mais aussi plein de plans d'eau intérieurs. Et j'ai appris la voile assez jeune. Ça m'a passionné. Et j'ai allié passion et métier ensuite quand j'avais 20 ans.
Donc le monde de la voile, de la plaisance entre en contact avec vous quand il faut faire découvrir quelque chose.
Complètement. Je suis la courroie de transmission entre mes clients dans le nautisme et un large panel de médias qui peuvent être sensibles à la course au large, au nautisme, à la plaisance.
Voiles et voiliers par exemple, le grand magazine.
Alors là c'est vraiment un spécialiste, voiles et voiliers, mais aussi France Inter, France Info. On s'adresse à beaucoup de médias. Il y a pas mal de médias qui sont très sensibles sensible à ce secteur de la mer.
Mais attention, le nautisme, c'est pas seulement la course, hein. C'est pas que le Vendée Globe, la route du Rhum, c'est autre chose aussi.
C'est aussi la construction de bateaux. On est dans un pays, la France, qui est leader dans la construction de bateaux de plaisance.
Et leader mondial.
Leader mondial. Oui, le nautisme, ça comprend beaucoup de choses. Ça peut aller jusqu'aussi, on peut parler de pêche à certains moments, on peut parler de maritime, d'histoire maritime.
Avec les nouvelles technologies, le vélique.
En effet, avec le vélique. Alors,
le vélique, c'est le transport à la voile.
Le transport à la voile, en effet, on peut parler aussi du transport cargo à voile maintenant. Et puis, toute l'industrie de la course au large est vraiment dans la technologie. On le voit sur le dernier Vendée Globe avec des bateaux qui volent maintenant. Ça va permettre d'aller vers la plaisance, puisque bientôt, les plaisanciers voleront aussi sur l'eau avec des foils.
Il va falloir naviguer différemment quand même, hein. Il faut le savoir.
Là, on devient pilote d'avion.
Tanguy Blondel, vous avez allié passion et vie quotidienne.
Complètement. En même temps, dans le milieu du nautisme, il faut être spécialiste. Ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on parle.
Avec le vocabulaire marin.
Avec le vocabulaire marin, les boots, les réglages, un cunningham, par exemple. Savoir ce que c'est qu'un alba. Enfin, bon, mais bref, il y a tout un vocabulaire. Et donc, par enthousiasme et par passion, l'idée, c'est de transmettre cette passion. Et il est important dans notre société de justement que l'océan nous transporte encore et qu'on puisse encore faire marcher nos cerveaux. Imaginez les marins dans des mers hostiles comme l'océan Indien. Et j'ai la sensation que l'imaginaire doit encore fortement marcher quand on parle d'océan.
Ça veut dire que ça se vit, la mer.
Ah bah, ça se vit notamment dans mon métier, puisque j'ai l'occasion régulièrement de naviguer. C'est des expériences fantastiques de découverte. En mer, on se sent déconnecté, on se sent potentiellement, pour ceux qui aiment, mieux. On se sort de la société.
Et vous avez eu des surprises en mer ?
Alors, il y a des multitudes de surprises, beaucoup de conversations, de dialogues avec les marins. Et c'est passionnant de les écouter, puisque les marins sont pour certains des extraterrestres. Notamment les marins qui courent au grand large sont certainement les derniers grands sportifs des temps modernes. Tellement ils sont complets et tellement ils nous font vivre des aventures complètement incroyables.
Ça vous tente un jour une course en solitaire ?
Pas du tout. je préfère être en équipe. J'ai pas l'âme d'un solitaire. Faut le faire, hein, pour naviguer en solitaire, ouais. Sur des longues distances. Il faut avoir une confiance en soi hyper importante.
Et un mental.
Et puis être techniquement très très en place, surtout sur les bateaux d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous préférez ? Voir la terre de la mer ou voir la mer de la terre ?
Je préfère voir la terre de la mer. Il n'y a rien de mieux que, en effet, après un long périple, voir la terre au loin.
Avec cette dimension toujours de bonne humeur, ch'timi.
Ch'timi est enthousiaste et passionné.
Merci à vous, Tanguy Blondel. Un site internet, tbpresse.fr. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6. Sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, des hommes et des armes. L'arme, elle est en une des échos, ce missile planté dans un sol enneigé. Cliché assez impressionnant, c'est vrai, qui illustre ce titre, le spectre d'une paix imposée à l'Ukraine. Et c'est la crainte, effectivement, après cet entretien mercredi entre le président des États-Unis et le président russe. Le quotidien explique que cela alimente les craintes de lâchage de l'Ukraine et que pour Donald Trump, le contenu du cessez-le-feu est moins important que le cessez-le-feu lui-même. Donald Trump, encore lui, qui occupe une grosse place donc à la une de la presse. Trump portrait en une de Libération, les yeux dans les yeux, avec Vladimir Poutine, sans qu'on sache très bien s'il s'agit d'un montage. Libé titre « Ukraine, seule au monde ». Même face à face en une de l'Humanité, sous ce titre, le cadeau de Trump à Poutine. Trump, Poutine, Zelensky, croqué aussi en une du journal L'Opinion par le toujours excellent CAC, les deux présidents, russes et états-uniens, brandissent devant un Zelensky dépité une feuille titrée Trump-Poutine, mélange donc de leurs deux noms, et sur laquelle s'affiche un jeu de morpion à côté de la caricature. Ce titre sérieux, Ukraine, l'heure de vérité pour l'Europe. En une des journaux, il y a aussi le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, en photo entre autres sur le Figaro Echo. Moscovici et son alerte sur les comptes publics, budget des dépenses hors de contrôle, préviennent aussi les Échos. Il y a encore Laurent Wauquiez, patron des députés LR, qui part en guerre souriant et dossier sous le bras, candidat à la présidence des Républicains en une du Figaro. Et puis il y a un autre homme qui est littéralement partout, avec pas mal d'interviews, les premières depuis l'annonce de son départ dans la foulée de la Coupe du Monde 2026. C'est l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, regard rêveur en une de l'équipe, assorti d'un gros titre, une citation. Zizou est un très bon candidat naturel, naturel donc pour reprendre la tête des Bleus. Allez, une femme tout de même à la une de la presse, c'est celle des éco-weekends plantés devant les escalators de Montparnasse. Elle nous regarde les yeux dans les yeux, c'est Marlène Dolvec. la femme qui pilote à la SNCF les transformations des gares en véritables centres commerciaux. Une femme du shopping donc. 5h19 sur France Inter, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière aujourd'hui, le droit du sol, récemment revenu dans le débat politique. D'où ça sort, Cyril ?
Le droit du sol, donc, un concept qui, on le verra, a traversé les siècles. Cette idée que votre passeport dépend de votre lieu de naissance et pas de savoir d'où vient votre arrière-grand-mère. En France, les premières bases sont posées au Moyen-Âge. En 1673, Louis XIV décide que les enfants nés en France de parents étrangers seront désormais considérés comme français. Autre tournant, 1789, la Révolution française, et ce qui s'ensuit, le Code civil napoléonien mixe en 1804 le droit du sol et le droit du sang. On n'est pas encore, à ce moment-là, au droit du sol tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais on commence à s'en approcher.
Arrive alors le double droit du sol.
Oui, nous sommes le 7 février 1851. Ce double droit du sol permet à un enfant né en France de devenir français si son père est lui-même né en France. Je dis père et pas parent, car oui, c'est un droit qui ne fonctionne que si le père, lui, est né en France. Et puis, 100 ans après la prise de la Bastille, cette fois on y est, le droit de la nationalité moderne, le double droit du sol est confirmé, mais surtout, l'enfant né en France devient automatiquement français à sa majorité, nationalité qu'il peut refuser, bien sûr. Voilà ce que notre invité, Patrick Veil, appelle l'usage républicain du droit du sol. Il faudra attendre quand même une nouvelle loi en 1927 pour que ce droit du sol s'applique aussi aux enfants nés d'une mère française. Il en aura fallu du temps pour que père s'applique à tous les parents. Alors pourquoi ce sujet fait-il encore débat ? Pourquoi est-il si politique ? Pourquoi est-ce que ça serait différent à Mayotte qu'ici à Paris ? Pourquoi faut-il craindre qu'il soit remis en question ?
Et les réponses dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site internet de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h. Cet après-midi, il sera question entre autres de l'année 1977 avec Céron. 5h21 sur France Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Vanhoenacker. Mais tout de suite, un certain talent pour tout foutre en l'air. C'est ce que revendique celle qui est nommée dans la catégorie Révélation féminine des Victoires de la Musique 2025, Yoa. Et ce titre, Princesse K.O.
Oh non, c'est pas vrai. J'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore elle. C'est difficile de pas l'écouter quand elle te répète. Tu es de celle qui n'avance pas au bon endroit. De celle qui trébuche à chaque pas. C'est toujours au cœur du cœur.
Je ne peux l'éviter.
française K.O. par Yoa, extrait de son album La Favorite. Elle sera entre autres en concert à Bordeaux le 7 mars et dans toute la France jusqu'au 14 juillet au Francofolie de La Rochelle.
France Inter.
Et à 5h24, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, elle explose les faits et mardi, elle s'attaquait aux décisions de Trump qui ressemblent, pour certaines, à des fake news. Charline a donc inventé un petit jeu.
Avec ses décisions, Trump est en train de troller la planète comme on troll Twitter. Et comme il joue avec nos nerfs, on va jouer avec ses décisions. Je vous propose un quiz, Trump or troll. Vous devez deviner si c'est une vraie ou une fausse décision du président américain. On y va. Vrai ou faux? Pour déterminer s'il existe un conflit d'intérêts entre les activités d'Elon Musk et son poste de ministre, la Maison-Blanche a décidé de nommer Elon Musk.
Oui, vrai.
Eh oui, c'est vrai. Musk est le mieux placé pour savoir s'il y a conflit d'intérêts, étant lui-même au centre du conflit d'intérêts. Quiz choix multiple. Pourquoi le nouveau directeur du FBI est un obstacle pour Trump? Parce que c'est un ancien démocrate? Parce que c'est une femme noire, lesbienne et végane? Parce que la Maison-Blanche s'est plantée sur le nom du type qu'ils ont nommé et que le poste est donc occupé par un opposant à Trump?
3.
Ouais, wow, parce qu'ils se sont gourés. Ouais, ouais. Bien. Brian Driscoll a été nommé par erreur. Donc la meilleure façon de lutter contre Trump, c'est donc juste de le laisser faire et d'attendre. Vrai ou faux, Donald Trump s'est fixé comme priorité le retour des pailles en plastique.
Vrai.
Eh oui, par décret, car les pailles en papier explosent. C'était donc une urgence. Make America to yet again. Après avoir gracié les émeutiers du Capitole, Donald Trump va gracier Harvey Weinstein afin de le nommer secrétaire d'État aux services sociaux.
Non, là c'est faux.
Ouais, faux. Ah, attendez, faux pour le moment.
Pour le moment.
Ah oui, parce que si j'ai trouvé l'idée, lui aussi il peut la trouver. Hein. Qui a dit publiquement, je cite, Elon Musk est un connard.
Xavier Niel.
Ah oui. Il y avait trois choix multiples, je vous les donne. Un utilisateur de Tesla tombé en panne sur la 13, Xavier Niel ou moi.
Peut-être que Xavier... ça se joue entre deux,
ouais,
et trois.
Hein. C'est, voilà, c'est Xavier Niel et moi. C'est vrai. Je conseille à Xavier de couper les réseaux pendant 3-4 jours. Quelle commémoration Donald Trump a-t-il supprimé au calendrier des agences fédérales? Le Martin Luther King Day, le mois des LGBT, la journée dédiée à la mémoire de la Shoah. Attention, pas facile. Les trois réponses sont correctes.
Si.
Ouais, ouais. Stéphane Colbert l'a dit dans son édito du Late Show sur CBS. Vrai ou faux, après le salut nazi d'Elon Musk et l'idée de forcer les Palestiniens à l'exode, Donald Trump aurait suggéré d'équiper les GI de casques à pointe?
Faux.
Oui, faux. Mais si c'était vrai, c'eût été un hommage aux légions romaines. Vrai ou faux, Donald Trump pense...
Faux.
Que...
Faux.
Ouais, bravo,
pas.
Bravo, non. Mathilde. Donald Trump ne pense pas, bien joué. Qui souhaite que le budget pour la rénovation énergétique des bâtiments soit réduit de 400 millions en 2025? Trump ou pas Trump?
Emmanuel Macron.
Ouais, ouais, bravo, c'est pas Trump. Ouais, c'est Bayrou, c'est dans le budget 2025. Trump lui veut supprimer tout le budget pour l'écologie, de toute façon. Allez, dernière question. Qui a déclaré? Les médias, parce qu'ils sont bêtes et paresseux, ne peuvent se concentrer que sur une chose à la fois. Il nous suffit de les submerger d'informations. Oui,
Bannon.
Voilà.
Steve
Bannon, ancien conseiller de Trump à la Maison-Blanche. Voilà, on n'a plus qu'à réfléchir tous là-dessus. Hein.
Allez, on réfléchit. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 10h moins le quart et demain, samedi à 19h 20 pour Bistroscopie, dans une poignée de secondes, le journal.
Ce samedi sur France Inter, Make Athens Great Again.
Samedi 11h, Pierre Judet de Lacombe.
Aristophane, dans sa comédie Les Oiseaux, a imaginé deux Athéniens grognons, excédés par les règles et les impôts, qui quittent leur monde pour envahir et tyranniser celui des oiseaux, en contrôlant toute forme de communication entre les hommes et les dieux. Ça ne vous rappelle rien ? Transportons Donald Trump et Elon Musk dans la Grèce antique.
Quand les dieux rôdaient sur la Terre.
C'est tous les samedis à 11h sur France Inter.
5h28 sur France Inter. Voilà Ali Badou qui vient de me rejoindre dans ce studio pour un avant-goût du 6-9. Bonjour Ali Badou.
Bonjour Marion.
Au programme aujourd'hui.
Au programme à 6h20, premier invité autour de cette information de la cellule d'investigation de Radio France. La Ligue des droits de l'homme porte plainte pour violation de la vie privée contre l'assistant virtuel d'Apple et vous en parlerez avec la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Nathalie Théiot. À 8h moins le quart, purge, droit de douane, la brutalité Trump-Musk peut-elle payer? C'est la question qui sera au cœur du débat écho entre Dominique Porcher, non, entre Thomas Porcher et Dominique Seux. Je m'y retrouve. Et à 8h20, une loi pour interdire les PFAS et taxer les milliardaires dans le grand entretien avec deux invités. Camille Etienne, activiste sur les questions climatiques et étudiante à Oxford. Et l'économiste Gabriel Zucman, qui est professeur à l'économie, à l'école d'économie de Paris et grand spécialiste des questions de fiscalité. Voilà pour le programme.
À tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Sarah Ders, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À Gaza, les Palestiniens retiennent leur souffle.
Que va faire le Hamas demain, jour de l'échange? Va-t-il libérer 3 otages, beaucoup plus, aucun, peut-être même les 76 encore retenus dans l'enclave palestinienne, comme l'exige Donald Trump? Ou bien les combats vont-ils reprendre? L'ultimatum lancé par Israël et les États-Unis. Dans l'enclave, l'attente est insupportable, Thibault Lefèvre.
Il fait froid. Il pleut, les abris en dur manquent et les drones israéliens ont repris leur vol de surveillance.
Tous les gens prient Dieu pour qu'il n'y ait pas de nouvelle attaque.
Eloi Nasser, qui dirige l'antenne locale de l'ONG française Supernovae, constate depuis l'annonce de l'ultimatum une explosion des prix.
Pour la plupart des produits de base, comme l'huile ou les légumes, le prix a doublé en 3 jours. Les commerçants récupèrent les denrées sur le marché, les stocks au cas où et... Donc, il y a une augmentation des prix.
Depuis près d'un mois, des déplacés comme Youssef ont retrouvé leur maison, ils ont commencé à déblayer, ils ont cherché leurs proches sous les décombres. Mais depuis le début de la semaine, il est impossible de se projeter. L'homme est à bout et il renvoie dos à dos les belligérants.
Les deux sont pareils. Dans cette guerre, il n'y a pas un gagnant, il y a toujours un perdant. Le seul perdant, c'est le peuple. C'est eux qui vont payer l'addition là.
Les Gazaouis manquent de tout et l'aide est insuffisante. Un exemple, selon l'ONU, 360 patients ont été évacués de l'enclave depuis début février pour être soignés en Égypte. Ils sont, selon la même source, 40 fois plus à devoir sortir au plus vite de Gaza pour être hospitalisés en urgence.
L'ONU qui alerte aussi une nouvelle fois sur cette catastrophe humanitaire qui se poursuit à Gaza malgré la trêve. Les Ukrainiens, eux aussi, dans l'attente après les propos de Donald Trump et Vladimir Poutine sur des négociations immédiates. La nouvelle administration américaine fait avancer son plan de paix pour l'Ukraine, sujet principal des discussions aujourd'hui à la conférence de Munich sur la sécurité qui réunit les principaux chefs d'État. Première rencontre d'ailleurs avec le président ukrainien. Mais Washington, Kiev et Moscou ont des interprétations différentes de ce que cette paix pourrait représenter et à quelles conditions. Emmanuel Macron met en garde Donald Trump contre une paix qui serait une capitulation. Il le dit au Financial Times.
En France, l'affaire Betarame est... Quelles conséquences politiques pour le Premier ministre?
À l'aube d'une prochaine motion de censure promise par le PS, François Bayrou, aussi maire de Pau, est accusé par une partie de la gauche d'avoir menti cette semaine à l'Assemblée nationale en expliquant qu'il ignorait tout des faits et des années de violences et abus sexuels sur des élèves qui auraient eu lieu dans ce collège lycée catholique où il a pourtant inscrit ses enfants. Les faits remontent aux années 70, 80, 90, au point que le PS demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que la France insoumise réclame même la démission de François Bayrou. Alors, Julien Lény, est-ce que l'inquiétude commence à monter au gouvernement ?
Pour l'instant, officiellement non, pas d'inquiétude à Matignon et au gouvernement. On se rassure en se disant qu'à ce stade, seule la gauche et surtout les rois de la polémique LFI, selon une ministre, montent au créneau sur cette affaire. Mais on fait quoi si le RN embraye ? S'interroge un conseiller qui s'inquiète des possibles développements de cette affaire pendant le week-end. Le RN peut alors très bien dire « Monsieur le Premier ministre, vous comprendrez qu'on ne peut pas ne pas vous censurer », poursuit la même source. Le Rassemblement national entretient le mystère sur ses intentions, d'autant qu'une nouvelle occasion de faire chuter le gouvernement se présentera dès la semaine prochaine avec la motion de censure sur les valeurs que compte déposer le Parti Socialiste. Alors pour éviter de courir un tel risque, François Bayrou a pris les devants. Il a téléphoné mercredi au porte-parole des victimes de Notre-Dame de Betarame pour lui demander comment il peut aider à faire avancer l'enquête en cours. Autre signe qu'une forme de fébrilité commence à monter, Matignon a transmis à tous les ministres les arguments pour tenter d'éteindre la polémique. Et il y avait urgence après les explications pour le moins hasardeuses du Premier ministre cette semaine à l'Assemblée.
Julien Nenni du service politique de France Inter. L'auteur est toujours activement recherché après l'attaque à la grenade dans un bar de Grenoble qui a fait une quinzaine de blessés mercredi soir. Il était cagoulé, armé d'un fusil d'assaut et a utilisé une grenade à fragmentation avant de prendre la fuite à pied, a fait savoir hier le parquet de Lyon. Didier Deschamps ne s'en cache pas, il voit en Zinedine Zidane un très bon candidat, un candidat naturel et attendu pour le remplacer en tant que sélectionneur des Bleus du foot. À l'été 2026, après la Coupe du Monde de football, il va prendre sa retraite, Didier Deschamps le dit dans un entretien au Figaro à l'équipe et aux Parisiens. Sa première édition, c'était au Moulin Rouge. 40 ans plus tard, ce n'est pas dans un cabaret, mais à la scène musicale. Les victoires de la musique, l'anniversaire, eh bien c'est ce soir, présidé par Alain Souchon. Et pour l'occasion, la chanson de l'année sera décernée par un vote du public.
C'était le journal de Sarah Ders. Bonne journée, Sarah. Une journée très différente du point de vue de la météo, selon que vous vous trouvez dans le nord-est ou dans le sud-ouest. Côté nord-est, l'air froid domine. Attention ce matin aux routes potentiellement glissantes et enneigées en Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Le soleil sera très présent. Avec quelques nuages en Alsace et Lorraine et quelques flocons possibles, quelques gouttes de pluie aussi sur les Alpes du Sud et la Corse. Le Mistral souffle jusqu'à 60 à 80 km/h en rafale pendant la journée. Le vent est aussi sensible sur la Corse. Côté ouest, les nuages dominent avec des passages pluvieux de la Bretagne aux Pyrénées, sauf sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Le beau temps arrivera dans l'après-midi. Et les températures, je les fréquente ce matin donc sur le nord-est. Il fera 0 à 19 degrés sur l'ouest. Prévoyez cet après-midi 3 à Nancy et Strasbourg, 4 à Lille, 6 à Paris, Lyon et Cherbourg, 7 à Tours et Rennes, 10 à Brest, 11 à Marseille, 13 à Limoges, 14 à Bordeaux et Nice, 17 à Perpignan et 18 à Biarritz.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, pour la Saint-Valentin, vous nous parlez d'un duo qui ne s'intéresse qu'à l'amour, Compromat. Rien à voir avec les documents compromettants des renseignements russes. Hein.
Non, que d'amour et de prières d'amour même, c'est le retour de Compromat. Le mont Vénus, sans faire aucun lapsus. Playing, praying, en cyrillique, s'il vous plaît. Le nouvel album de Compromat embrasse évidemment tout ce champ lexical entre la communion et l'extase, le rituel et l'incantation sensuelle. Je pense que mes prières pourront élever nos âmes. Lift me up, s'envoyer en l'air, c'est une quête spirituelle doublée d'une érection. Fin de citation. Compromat, c'est un duo, vous le savez, le DJ Vitalik et la chanteuse et musicienne Rebecca Warrior. Elle, vous l'avez peut-être déjà entendu dans Mansfield Tia, Sexy Sushi. Ensemble, ils ont trouvé la formule gagnante. Leur premier album en 2019 a été un joli succès et l'annonce d'une tournée d'un nouvel album a fait réagir immédiatement. L'Olympia était complet en 24 heures et la tournée est quasi complète aussi partout en France. On va danser donc, et un peu plus qu'à deux, avec les fans de Compromat et on va rêver aussi.
Je ne sais pas si je l'ai rêvé, si j'étais debout, si j'étais endormi, si c'était le jour, si c'était la nuit. Je ne sais pas où est ma maison, où est mon chez-moi. Je n'ai pas d'attache ici, seulement dans tes bras, seulement dans ta vie. Only in your arms.
Only in your arms, seulement dans tes bras, de Compromat qui parle français et pas seulement à ce que j'entends.
Mais oui, en effet, leur premier album, Traum, Ut und Existenz, a été chanté en français et en allemand. Voyez, mon allemand est nul.
Bravo.
Et celui-ci s'écrit en anglais et dans la langue de Jean Genet. On passe d'un monde à l'autre en permanence, de la chair à l'au-delà, c'est grinçant, punk, techno, new wave. mélancolique aussi et super entraînant à la fois. Playing Praying vient de sortir sous le label Warrior Records, qui est le label fondé par Rebecca Warrior. Alors on écoute là leur variation sur un thème du Je me souviens de Pérec. Compromat avec en invité Feu Christine and the Queens, Rhyme Redcar, I did not forget you.
Je me souviens de nos vacances où nous restions près de la cheminée, se prélassant tout en étant enlacés, trop de MD sans surveillance. Je me souviens de la première fois où tu m'avais chauffé à blanc. J'étais rentrée toute seule en y pensant. Je m'étais branlée. Ce que t'as de toi, irrésistible fond de l'enfer.
I did not forget you.
Je ne t'ai pas oublié. Je ne pourrais.
Le duo de Compromat avec Rahim Redcar. Merci Mathieu. Et pour les concerts, on a compris que l'Olympia c'est complet alors.
Oui, la tournée aussi, mais il reste les festivals Printemps de Bourges, les Nuits Sonores à Lyon, Art Rock à Saint-Brieuc, Solidays, Garo Rock, Bourga, ou encore au Large Festival en juin à Marseille et le 5 novembre au Zénith à Paris.
Quel beau programme. Et ce soir, la musique continue sur Inter avec les victoires.
Oui, les 40e victoires de la musique présentées par Aline Afanoukoé et Laurent Goumard en direct de la scène musicale de 21h à minuit.
Merci Mathieu. 5h41 sur France Inter et ce matin dans le zoom de la rédaction nous prenons la direction de l'Est de la République démocratique du Congo où les rebelles de la milice M23 soutenue par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville de Goma en quelques jours. Une offensive éclair qui a sidéré la communauté internationale et fait craindre une guerre régionale sur fond de pillage de minerais. Bonjour Omar Waman.
Oui, bonjour.
Omar, vous êtes à Goma où les combats ont causé la mort de plus de 3000 personnes et fait des centaines de blessés. Les hôpitaux de la ville sont submergés.
Oui, comme ici dans l'hôpital Endosho, où les équipes de la Croix-Rouge internationale ne connaissent aucun répit. Le chirurgien en chef, Abdou Sidibé.
Moi, dans ma vie de chirurgien, c'est ma première fois de voir ce type d'afflux de blessés.
Une vague sans précédent, avec un pic de plus de 400 blessés en 3 jours, au plus fort des affrontements.
Actuellement, nous sommes à 25 à 30 interventions par jour, 24 heures sur 24.
Une chirurgie de guerre dans l'urgence, sans scanner ni radio. Sur la table d'opération, un homme de 22 ans, un civil fauché par des éclats d'obus, des blessures béantes sur tout le corps.
Sérum salé, c'est bon. Et là, une plaie au niveau de l'abdomen, l'estomac, les bras. Le foie est touché, la rate est touchée. Le thorax aussi, les poumons sont touchés. Plus de 200 points. On peut dire qu'il est miraculeux. Hein?
Les gestes sont précis, presque mécaniques, avant le dernier point de suture.
Merci tout le monde.
L'opération aura duré 4h20.
Ça, c'est notre quotidien. Hein?
Dans la cour de l'hôpital, 10 tentes blanches abritent des blessés en enfilade, la plupart par balles. Cet homme, également 22 ans, a été touché aux parties génitales.
C'est un trop pénis.
Au niveau de votre pénis.
Il a traversé les testicules. Et puis, ça a été sorti ici, derrière le fesse.
Il fait partie des forces spéciales de l'armée congolaise et a participé à la bataille de l'aéroport de Goma, théâtre de féroces combats.
C'était vraiment la guerre des cadavres partout. Ils étaient trop nombreux, ils sortaient de Rwanda avec des militaires rwandais. Je l'ai vu moi-même. 3 jours successifs, jour et nuit, quand j'ai pris la balle, il y avait un motard civil. Il m'a dit, tu es notre militaire de la garde républicaine congolaise. J'étais seulement. Il m'a amené jusqu'ici.
Et depuis la prise de Goma, l'aéroport est toujours fermé, malgré les appels répétés de l'ONU à permettre le transport des blessés et l'acheminement de l'aide humanitaire.
Alors Omar, la situation humanitaire dans l'est de la RDC était déjà catastrophique. Elle s'est aggravée depuis la chute de Goma.
Oui, car les ONG limitent leurs déplacements dans la ville de Goma, où la situation reste dangereuse, ce qui affecte directement les populations. Augustin vit avec ses 4 enfants dans le camp de Boulingo, près de Goma, où s'entassent près de 100 000 déplacés.
Tout a changé. Premièrement, avant l'arrivée des M23, on recevait l'assistance humanitaire. Nous avons des dispensaires ici, tout enfermé. Ils ont fui. Parce qu'ils ont eu peur de travailler là où il y a les forces de M23. Pas d'assistance, nous sommes abandonnés.
Mais ce qui inquiète surtout les ONG, c'est l'ultimatum fixé par le M23 aux centaines de milliers de déplacés qui ont fui les combats ces dernières années pour venir se masser autour de Goma. Dimanche, les rebelles leur ont donné 3 jours pour rentrer dans leur village, mais ces déplacés considèrent que les conditions ne sont pas réunies. À l'image d'Alice.
Je suis veuve. Mon mari a été assassiné au début de la guerre et notre maison a été détruite. Je ne peux pas retourner dans notre village car l'ennemi est toujours là-bas. C'est à 4 jours de marche. J'ai peur car toute la région est plongée dans l'insécurité. On peut se faire attaquer n'importe quand. Au mois de juin dernier, nous étions un groupe de femmes parties dans la brousse pour aller chercher du bois. Sur le chemin, on a rencontré des hommes armés de machettes. Certaines d'entre nous ont pu fuir, d'autres comme moi ont été attrapées et violées.
Le retour des déplacés dans leur village a commencé en début de semaine. Il s'effectue sous la contrainte, souvent sans soutien logistique, sans transport, des heures voire des jours de marche pour retrouver des villages transformés en champs de bataille avec le risque de recroiser les groupes armés qu'ils avaient fui.
La situation apocalyptique à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était le Zoom d'Omar Ouaman et Sandrine Malon à réécouter sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 5h46 sur France Inter. C'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, sculpteur à Metz. Bonjour François Drapier.
Oui, bonjour Marion Lourd.
Alors vous êtes un récidiviste, hein, parce qu'on vous a déjà eu dans ce Déjà Debout il y a 4 ans. Est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi vous êtes déjà réveillé à cette heure matinale ?
Ben, je suis déjà réveillé, d'abord parce que vous m'appelez au téléphone. Non, oui. Mais bon, plus sérieusement, voilà, effectivement, je fais pas de la sculpture, je pratique la gravure, en fait. Mm. Et bon, c'est vrai que c'est une activité qui est assez chronophage et donc qui prend du temps et qui nécessite aussi du calme, de la concentration. C'est des méthodes opératoires assez précises, quoi. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je me lève tôt et puis voilà, c'est devenu une habitude.
Et on va commencer peut-être par raconter cette activité. Alors, effectivement, vous sculptez le zinc qui va servir à graver, à faire les gravures dont vous parliez, dont vous faites ensuite des romans graphiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, je ne peux pas dire que je fais régulièrement des romans graphiques.
Vous l'avez déjà fait.
Donc, voilà, j'ai déjà fait un roman graphique qui s'appelle Tempête sur le zinc et qui est.
Et on va en parler.
En fait, qui est né, voilà. Et qui est né des attentats du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, et voilà, qui représente en fait une certaine forme de sidération que j'ai eue à ce moment-là et qui m'a fait perdre la tête. Et donc en fait, elle raconte l'histoire d'un homme qui, ayant perdu la tête, déambule dans le monde de l'art à la recherche de sa tête. Donc en fait, et tout ça en croisant effectivement des tableaux, des photos, des films du monde artistique relativement connu.
Et ce livre, en fait, il a une nouvelle vie, en quelque sorte, parce que vous avez rencontré récemment le père d'une victime assassinée, elle, dans les attentats du 13 novembre 2015.
Et vous vous êtes joint à leur association, à l'association des parents, à l'association qui s'appelle Marie et Mathias.
Oui, voilà, c'est ça, Marie et Mathias, qui sont donc deux jeunes amoureux messins décédés et assassinés donc au Bataclan, et dont j'ai rencontré le père, en fait, le père de Marie, à un moment donné, sur un forum littéraire. Et donc, je me suis mis, comme je n'avais jamais exposé la totalité de mes gravures, je me suis dit que c'était l'occasion de les exposer entièrement, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 170 avec toutes les matrices, et puis de les vendre au profit de cette association qui a vraiment beaucoup de vertus, qui cherche non pas à se réfugier dans le malheur, puisque finalement c'est un petit peu ce qui a touché cette famille, comme beaucoup d'autres, mais qui cherche au contraire à faire partager donc les valeurs portées par leurs deux enfants, Monsieur Loche et enfin la famille Dimarski et la famille Loche. Donc qui organise des événements, qui font se rencontrer les gens, qui font des échanges, qui organisent des manifestations artistiques, pour récolter des fonds aussi et puis promouvoir des projets en fait portés par des jeunes enthousiastes. Voilà.
Oui. Dites-nous un peu où est-ce qu'on peut la voir cette exposition et quand.
Alors cette exposition elle aura lieu donc à Metz, à l'atelier Sainte-Croix des Arts. Et ce, donc, du mercredi 26 février jusqu'au 9 mars. Le temps est assez bref, mais je pense que ça sera assez dense. Et voilà.
Et la vente à la fin, donc, de l'exposition
La vente aura lieu pendant toute la durée de l'exposition. Bon, on espère que le vernissage qui aura lieu le vendredi 28 mars et le 28 février aura donc. Ce sera un point d'orgue, on va dire, de cette exposition. Mais voilà. Ça durera peut-être même tout le mois de mars. On pourra contacter l'association pour continuer à vendre ces gravures au profit de Marie et Mathias. Voilà.
Au profit de cette association, vous nous disiez qu'il fait quoi exactement ?
Alors, elle organise des événements. Alors d'abord, il y a chaque année évidemment des commémorations qui se passent dans un lieu justement de cette colline Sainte-Croix-des-Arts où a été élevé un mémorial. Un mémorial pour Marie et Mathias. Et chaque année, donc... des chèques sont remis à des jeunes qui ont eu des projets qui sont louables et ils organisent aussi des marches sportives, des événements artistiques, musicaux pour rester dans l'enthousiasme et dans la fête pour refaire vivre cette mémoire qui était celle de Marie et Mathias, qui étaient vraiment très, très, très enthousiastes. Voilà.
Merci François Drapier d'avoir été notre invité déjà debout. Je rappelle donc cette exposition Tempête sur le Zinc qui sera jusqu'au 9 mars à l'atelier Sainte-Croix de Metz. 5h51 sur France Inter. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux. Aujourd'hui, question gastronomie. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, à table.
Bonjour, je m'appelle Basile, j'ai 9 ans, j'ai une question. Pourquoi on dit que les cornes bleues sont bleues alors qu'ils sont pas bleus ? Merci.
Eh ben ouais, je te le fais pas dire, Basile, les cordons bleus qui sont pas bleus. Alors d'où ça vient cette histoire, Loïc Bienassi, vous qui êtes justement historien, spécialiste de l'alimentation ?
Bon, c'est sûr que c'est un cordon bleu et bleu, c'est quand même
faut mieux
assez,
pas le manger.
Assez mauvais signe, oui. On peut d'abord partir de l'expression cordon bleu, et là on s'éloigne du culinaire en réalité. Le cordon bleu, en fait, il faut remonter au règne d'Henri III. On est en 1578, Henri III, roi de France, et il crée l'ordre du Saint-Esprit. C'est une récompense, finalement, un ordre de chevalerie honorifique pour récompenser les gentilshommes qu'il veut honorer. Et il se trouve que cet ordre du Saint-Esprit, l'insigne, c'est une croix de Malte suspendue à un cordon bleu, à un ruban bleu. Donc tout le monde sait, parmi l'aristocratie, ce qu'est ce cordon bleu. On peut lire des phrases comme « Le roi lui donna le cordon bleu ». Et on voit qu'au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, alors que ça n'existe plus, la Révolution est passée par là, désormais il y a la Légion d'honneur, hein, et on voit que il y a cet usage, j'allais dire un peu ironique, qui est rentré dans le vocabulaire courant à partir du début du XIXe siècle, qu'on qualifie de cordon bleu une cuisinière très habile.
Oui, c'est les bons cuisiniers et cuisinières,
exactement.
Ce sont des cordons bleus.
Ce qui est encore un peu, je vous dis, un peu ironique, parce que voilà, on passe d'un ordre de chevalerie aux cuisinières. Alors, quel rapport avec le plat ? Eh bien, le plat, en fait, lui, il est sans doute américain. Il a des origines diverses, on trouve des préparations qui ressemblent en Europe peut-être. Bon, origine obscure, enfin généalogie obscure. Quoi qu'il en soit, il y a toute une famille de plats qui est proche de ce cordon bleu. Les premières occurrences qu'on repère, c'est dans les fins des années 40, à ma connaissance, aux États-Unis, où on voit un veal, c'est-à-dire du veau, cordon bleu.
En français dans le texte.
En français dans le texte, parce qu'en fait, il s'avère que c'est un plat plutôt de gastronomie. Alors aujourd'hui, on imagine plutôt de la cuisine de cantine. Eh bien non, plutôt un plat de gastronomie. Et quand on a ces plats qu'on veut marquer du sceau de la qualité, ben on parle français. Donc il y a eu cette idée d'employer l'expression cordon bleu, sans doute pour rehausser le prestige du plat, ce qui était tout à fait courant dans ce qui se voulait de la haute gastronomie aux États-Unis, cette référence à la France.
Pour dire ce que vous allez manger, ça va être super bon, c'est
exactement.
Très bien fait.
Et on les trouvait dans des restaurants luxueux à ce moment-là. Et puis, rapidement, années 50, 60, on voit que ça se démocratise. Et on a tout un tas de recettes, il y a tout un ensemble de recettes. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, ça arrive en France avec ce mot français pour un plat qui, lui...
est américain.
Exactement. Et avec cette particularité, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des cordons bleus maintenant faits par des charcutiers, des bouchers, mais que le cordon bleu est arrivé en France d'abord comme un plat industriel, en réalité.
Ah, c'est l'agro-industrie qui a lancé le cordon bleu.
Exactement.
Et l'artisanat s'en est emparé après.
Exactement. Ce qui a une trajectoire assez originale.
Eh bien, il s'en cache des choses derrière le cordon bleu. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Retrouvez quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et c'est l'heure de notre café philo en compagnie de Patricia Martin. Bonjour Patricia.
Bonjour Marion Lourd.
Vous évoquez ce matin une sorte de monument national français dont l'esprit serait comme un ADN que nous partageons tous.
Oui, alors on va jouer aux devinettes, Marion.
Ah oui.
Qui peut-il bien être ce monument national incarnant à lui seul une manière de penser dont on dit qu'elle serait française ? Je vous aide un peu, son nom commence par un D, c'est déjà un indice, vous avez une idée déjà. Quelques éléments supplémentaires pour vous aider. Il a écrit sous trois formes différentes la chose suivante, là vous allez deviner. « Moi qui pense, je suis ».
Ah, je l'ai.
« Moi qui suis, moi j'existe ». Et enfin, « Je pense, donc je suis ».
Et donc c'est Descartes.
Eh ben bravo, il s'agit bien de lui. René Descartes, né le 31 mars 1595 au sud de la Touraine. Sa ville natale porte du reste aujourd'hui son nom. Descartes, fondateur de la philosophie moderne, il a marqué un véritable tournant. On parle même d'une révolution cartésienne.
Alors sauf qu'on le met un peu à toutes les sauces, hein, Descartes, notamment lorsqu'on dit que les Français ont l'esprit cartésien ou encore quand on véhicule des idées toutes faites, voire fausses à son sujet.
Oui, alors d'abord, il faut bien se dire que le fameux cartésianisme, c'est une invention postérieure à Descartes.
Ah oui.
Ensuite, ouais, en mettant le cogito au centre de sa philosophie, on a simplifié son projet. Il faut avouer que son fameux animal machine et les expérimentations auxquelles il s'est livré ne l'ont pas vraiment servi, mais c'est à replacer évidemment dans un contexte particulier.
Il était donc temps de lui rendre justice, et notamment en publiant à nouveau ses écrits dans l'édition de La Pléiade.
Oui, une édition enrichie par rapport à celle qui existait, car c'est bien d'une entreprise infinie qui dépasse un seul homme dont il s'agit. Descartes force l'admiration, aussi bien celle des philosophes que des scientifiques. Écoutons ce qu'en dit Lionel Nakache, neuroscientifique et neurologue.
Pour moi, un élément fondamental pour moi de la pensée de Descartes, c'est ce qu'on va appeler l'opération de mise entre parenthèses. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Descartes se demandait vraiment quelles sont les preuves de mon existence, le fait de pouvoir douter, exercer le doute sur tout ce qui l'entoure, il trouve une seule chose qui peut résister à cette mise entre parenthèses. Est-ce que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas, donc ça, je ne m'en occupe pas. Il reste une chose, il reste son activité pensante. C'est-à-dire que le fait de penser, l'activité de penser, quel que soit son contenu, et je le traduis aujourd'hui, la vie mentale consciente, quel que soit ses contenus, ça, c'est le socle de base à partir duquel on peut définir notre existence. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une découverte à la fois géniale et profondément intemporelle sur laquelle on peut construire aussi une science de la subjectivité.
Et ça, c'était le neuroscientifique et neurologue Lionel Nakache. Et vous, Patricia, ce soir dans leur philo, vous recevez Denis Cambouchner qui a écrit l'introduction de cette nouvelle édition de La Pléiade. Et puis Annie Bidbol-Espériès qui a contribué à cette publication. Et rendez-vous donc ce soir.
Vous avez tout dit. À 20h10. Merci Marion.
À ce soir.
Améliorez votre expérience d'écoute de France Inter grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur vos programmes. Plongez au cœur de la radio en qualité numérique. C'est gratuit, sans abonnement ni connexion Internet. France Inter vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur ensemble pour le DAB+.fr.
5h58.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et bonjour, c'est Linda Costa.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
C'est le retour du soleil par l'Est.
Oui, enfin, et on en aurait déjà ce matin, prédissipation de brume, de brouillard. Alors localement, on peut même avoir une petite bruine ou quelques flocons entre l'Alsace et la Franche-Comté. Attention également au verglas sur ce secteur parce qu'on va le voir, ça gèle sur le nord-est ce matin. Soleil qui sera déjà plus franc près de la Méditerranée avec un vent bien présent, vent qui souffle également en Corse avec de faibles averses sur le sud de l'île. Pour l'ouest du pays, le scénario est plus mitigé puisque le ciel est couvert et faiblement pluvieux ce matin. De la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine et à l'ouest de l'Occitanie, tout ça avec des valeurs souvent négatives sur la pointe nord et le nord-est. 1 à 9 degrés pour les autres, jusqu'à 12 pour Biarritz et Perpignan.
Et des valeurs qui cet après-midi seront bien douces sur la moitié sud.
Oui, une moyenne de 11 à 18 degrés quand sur la moitié nord, elle ira de 3 à 9 degrés. Avec ce soleil tant désiré qui revient sur une grande partie du pays, on aura juste un petit peu plus de nuages et peut-être quelques gouttes entre les Alpes-Maritimes et l'ouest de la Corse, du vent près de la Méditerranée. Et puis surtout, nuages toujours bien présents avec encore un peu d'humidité entre la Bretagne, le Cotentin et le long des côtes atlantiques.
Et merci Céline Dacosta et revoici Ali Badou pour démarrer ce 6-9 avec moi au programme ce matin, Ali.
Eh bien, il reste deux
secondes pour nous dire quoi.
Vous dire que votre première invitée sera la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Nathalie Théo. Voilà en tout cas pour le premier rendez-vous dans 20 minutes.
Bon réveil à l'écoute de France Inter, il est 6h.